Maurice Efti, vous êtes ethnologue, archéologue, spécialiste des civilisations précolombiennes et plus particulièrement des Mayas. Vous avez publié un livre intitulé « Maya, pensée indienne » et vous avez également réalisé un film « Étrange et captivant Mexique, le mystère des Mayas ». Pourquoi vous êtes-vous intéressé aux Mayas d'abord ?
Depuis toujours, pratiquement. C'est-à-dire, je crois qu'on fait un choix. Et il y a une chose curieuse, ce choix peut se faire souvent par l'exotisme. C'est-à-dire que tout enfant, on a l'impression de connaître son milieu. Moi, je suis de la campagne et il est vrai qu'on rêve peut-être plus facilement de tout ce qui est étranger. Et assez tard tout de même, un peu avant 20 ans, j'ai réalisé que le fait de connaître une civilisation totalement différente de la nôtre me permettrait peut-être de mieux me comprendre et de par là, de mieux comprendre tout ce qui se passe chez nous aussi.
Et les Mayas vous ont permis de mieux vous comprendre ?
Chaque jour un peu plus. Dans la mesure où une civilisation qu'on a d'abord détruite, bien sûr, qui s'est détruite elle-même, qui a disparu, peut-être tellement à l'opposé de notre philosophie. C'est vrai que quand on a compris que la raison était un système parmi les systèmes, c'est-à-dire que tout le côté raisonnable ou cartésien de l'Européen n'existe absolument pas chez un précolombien, et que tout est à l'opposé, tout est différent, comme quelqu'un qui tout à coup découvre l'Inde, enfin c'est un monde, eh bien découvrir les Mayas c'est un peu la même chose. Or, on apprend par comparaison une nouvelle intelligence, une nouvelle sensibilité.
Connaît-on exactement l'origine des Mayas ?
Est-ce qu'elle est importante ? On connaît mal l'origine des Occidentaux aussi. Celle des Mayas est pratiquement inconnue. C'est le travail, effectivement, d'un archéologue d'essayer de retrouver les sources de chaque chose. Mais je pense qu'il est peut-être plus extraordinaire aujourd'hui à découvrir par rapport à ces peuples précolombiens, c'est leur apogée. C'est justement ce qu'ils ont pu apporter et qu'on a presque ignoré jusqu'à nos jours.
Alors, à quelle époque se situe l'apogée de la civilisation Maya ?
Bon, les Mayas sont des gens un peu à part. Ce sont les classiques de l'Amérique. C'est un peu comme nos Grecs pour l'Occident, si vous voulez. Donc leur apogée se situe entre 300 et 900 de notre ère. Et il y a une disparition encore plus mystérieuse, parce qu'on a remarqué qu'il y avait une élite extrêmement restreinte, que ces Mayas avaient en fait poussé en avant, mais avec un niveau d'ignorance fantastique dans tout ce qui était en dessous. C'est-à-dire le peuple, en l'occurrence les paysans, les esclaves, qui vivaient autour de centres cérémoniels. Il n'y a jamais eu de ville au sens où on l'entend. Eh bien, ces gens-là avaient totalement déposé leur avenir entre les mains de cette élite, qui, elle, avait conçu un cosmos absolument gigantesque, avec des mathématiques extrêmement poussées, avec des calendriers qui fonctionnaient comme des roues dentées géantes. On a vraiment l'impression d'un univers un peu surréaliste. Alors, il est bien clair qu'un univers comme celui-ci est facile à bousculer. C'est-à-dire qu'à un moment où les paysans, les esclaves sont fatigués de construire des temples ou des cités incroyables pour d'autres personnes que pour eux-mêmes, et d'autant plus que n'ayant aucun contact véritable avec les dieux qu'on place en avant et surtout au sommet des pyramides, eh bien, il suffit éventuellement de supprimer cette élite. Ça, c'est une des grandes théories actuelles, mais une suppression en forme de jacquerie. Ça, c'est aussi une théorie nouvelle, comme on pourrait le faire entre Sparte et Athènes, qui sont des villes justement séparées sur le plan politique et surtout religieux.
Et qu'est-ce qui reste exactement de cette civilisation Maya de façon concrète, enfin qu'on puisse toucher du doigt, à part les fouilles, à part certains langages, qu'est-ce qu'il reste en 1980?
Alors, par votre question, c'est justement celle qui, moi, m'a tenté le plus, ça, involontairement, oui. Dans la mesure où, par le film que je tente de présenter maintenant en Suisse romande, eh bien, on a tenté, par une première période archéologique, si vous voulez, de montrer ce qu'était cette civilisation, et puis ensuite de voir si, entre guillemets, les indigènes d'aujourd'hui avaient encore quelque chose de leur passé. Bon, il y a des termes un peu complexes, mais enfin, le syncrétisme dans le mélange chrétien et précolombien existe toujours, c'est vrai, mais derrière, il y a tout un tas de choses qu'on a essayé d'une manière extrêmement sensible d'aborder. Et quand je dis sensible, c'est qu'on a souvent dû rester plusieurs semaines en compagnie d'une simple famille pour savoir ce qui était caché derrière la grand-mère qui est une guérisseuse ou derrière le personnage un tel qui est un des 80 sorciers du village. Alors obligatoirement, là, on finit par découvrir un monde qui est totalement caché à l'occidental, parce qu'après tout, toute l'Amérique latine est occidentale, et parce qu'elle est espagnole, bien sûr, et que ceci a été en principe totalement recouvert par un glacis que j'appelle catholique, puisque c'est la religion qui a volontairement voulu étouffer l'ancienne. Et là, eh bien, je crois que par un peu plus d'une heure de séquence, on a pratiquement pris une année, on a eu à peu près une année de travail, disons, sur place au point de vue film, eh bien, on se rend compte que tout à coup, on part sur un autre chemin, une autre voie, une autre sensibilité et une autre écoute aussi. Et quand on voit les événements d'aujourd'hui, là, je ne veux pas forcément parler de politique, mais quand on lit dans nos journaux ce qui se passe au Guatemala et qu'on voit que c'est effectivement contre des indigènes, contre des paysans, que l'on doit... pratiquent une sorte de répression, comme elle existe aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être justement parce que ces gens-là ont une autre mentalité, une autre base religieuse et philosophique, qu'il y a si peu de réaction à l'extrême, puisque fatalisme, il y avait déjà auparavant. Alors, il faut expliquer aussi ce qu'est ce fatalisme. Et par ce film, en fait, l'image est déjà assez parlante, mais ce qu'on a surtout voulu lancer, enfin, ce qu'on tente de lancer en Suisse romande, ceci existe effectivement chez vous en France, ça existe en Belgique, dans différents pays francophones, nous avons créé un nouvel organisme qui, lui, tente non seulement de présenter des films, mais surtout l'auteur du film, et un débat. Et non pas simplement... Je pourrais reparler de l'histoire d'une pièce de théâtre. À l'extrême, on apprendrait peut-être plus à pouvoir discuter 10 minutes ou un quart d'heure ou une heure avec vous après la pièce de théâtre, si vous voulez, si vous aviez la faculté de le faire. Eh bien, c'est ce qu'on tente de faire avec le film et en même temps le débat. Et cet organisme n'est pas tellement connu ici, mais je pense qu'il fait son chemin. Nous sommes déjà à la quatrième présentation, et chaque auteur a une optique, enfin, une vue particulière.
Mais c'est intéressant parce que, à part quelques spécialistes dont vous faites partie, est-ce que vous avez l'impression que c'est porté à la connaissance du grand public? Parce que, à part certains lettrés, certains intellectuels, la civilisation maya, je pense que si on arrêtait 10 personnes dans la rue, je ne crois pas que beaucoup de personnes répondraient.
Nous avons mis comme sous-titre, enfin le titre du film, c'est « Étrange et captivant Mexique », ce qui est faux puisqu'on touche aussi le Guatemala et d'autres pays d'Amérique centrale. Et en sous-titre, moi j'ai voulu qu'on mette « Mystère Maya ». Parce que le mystère est absolument complet. Vous parlez de grand public. Mais moi je suis fort étonné, je prends le cas, la semaine passée, on m'a invité dans une série d'écoles en Suisse romande, parce que ce qui moi me bouleverse le plus, c'est de penser qu'en Suisse romande, nous avons un public potentiel que j'ai calculé à peu près 30 000 personnes qui viendront voir un film comme celui-ci. 30 000 personnes, c'est énorme. C'est pratiquement autant que lors d'une grande tournée théâtrale ou de chanson. Donc ça prouve simplement que...
C'est vrai pour la chanson.
Oui, c'est vrai pour la chanson, vous voyez. Eh bien, effectivement, ce qui, moi, me trouble, c'est que sur le plan des médias, etc., les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur un grand public. Mmh. Et la différence que je remarque dans une salle, et je le disais par rapport à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, des gosses qui, eux, ont 10, 12, 15 ans, et mon commentaire, je ne le change pas. J'ai obtenu un prix spécial d'un jury du Festival de Royan pour ce film à cause du commentaire. C'est un commentaire pour adultes, totalement, et pour spécialistes, je dirais à l'extrême. Mais un gosse qui, à la fin du spectacle, vous dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est le syncrétisme? Même si je l'ai déjà expliqué, on avance encore d'un pas. Et le public lui-même, d'une façon honnête, j'entends fort sobre, des fois nous pose des questions qui nous paraissent souvent simplistes, mais qui permettent d'ouvrir un véritable débat.
Vous parliez de fatalisme tout à l'heure, en fait, à propos des Mayas. Alors, dans le fond, est-ce que la conquête espagnole ne s'est pas faite très facilement, compte tenu, justement, de ce fatalisme?
Oh, l'Espagnol a bénéficié de tellement de choses. Je crois que la chose la plus fabuleuse de l'Espagnol, c'est déjà que sur le plan du Mexique, en l'occurrence, il soit arrivé comme un dieu. Ça, c'est vrai que c'est un des sujets qui me passionne peut-être le plus. Il faut d'abord comprendre ce qu'est le fatalisme indigène et ce fameux cycle de vie et de mort, cette obligation du cataclysme. Essayez de penser que nous, vivants en 1981, allons devoir être certains, comme un précolombien, que l'an 1000 ou 2000, par exemple, soit le dernier de notre ère. C'est-à-dire qu'on soit dans l'absolu. Les mathématiques peuvent vous prétendre que tous les 52 ans, vous êtes à l'éventuelle fin du monde. Alors, essayez de vous imaginer ce que représentent quelques Espagnols qui arrivent sur la mer. C'est une nouvelle formule de fin du monde. On l'accepte. Terminé. Or, tout ce qui s'est passé après a été accepté pratiquement de la même manière. Quand vous suivez simplement les péripéties d'une révolution au Mexique, comme elle a eu lieu en 1910, c'est quand même une des premières grandes révolutions mondiales sur le plan de cette formule révolutionnaire, eh bien, on remarque qu'effectivement, en quelques mois, elle est déjà assouvie. C'est-à-dire, le peuple n'a pas du tout la notion d'individu. Il y a souvent une formule de masse. Tout le monde croit en la même chose et fonce dans la même optique. Ça, c'est très curieux. Si demain, on vous disait de vous lever pour quelque chose, vous y réfléchiriez un peu. On a l'impression que le précolombien ne se posait jamais ce genre de questions. D'abord parce qu'il n'avait pas peur de la mort, et parce que ces systèmes de paradis étaient tellement en opposition avec notre système judéo-chrétien.
Et c'était les dieux qui arrivaient, d'ailleurs.
Cortés, d'ailleurs, a été considéré comme un dieu.
Cortés a été pris pour le serpent à plumes précieuses, tout simplement parce que, bizarrement, on avait déjà eu énormément de présages et que l'année 1519 tombait sur l'année 1 du roseau, qui était celle du retour éventuel de ce dieu. Donc le messianisme existe partout dans la religion précolombienne. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures.
Les Mayas font-ils encore des sacrifices d'animaux? d'animaux actuellement?
Oui, les sacrifices d'animaux sont assez fréquents et il y a même des formules. Je présente dans le film, par exemple, une crucifixion. Donc un jeune garçon de 14 ans qui est crucifié. C'est une image assez forte. Rester plusieurs heures sur une croix, ça n'est pas forcément très drôle. Il y a quelques années, un gosse de 10 ans a été volontairement sacrifié alors pour représenter un Christ indigène.
Donc il faut parler de sacrifice humain alors.
Ça, c'était une exception. Mais penser qu'on est capable de sacrifier un gosse afin de créer une révolution messianique, puisque c'était l'idée, c'est de nouveau le même problème que le problème purement précolombien. Et après tout, leur idée de sacrifice est tout à fait logique, celle du Christ. Il y a aussi une autre scène du film où on montre que des dindons sont sacrifiés de la même manière que le Christ aurait pu l'être, en offrant son sang à la terre afin que le maïs puisse repousser. Donc il y a des conflits entre les deux religions qui sont passionnants et qui ne sont absolument pas visibles pour ce que j'appellerais le touriste commun.
Mais est-il vrai, par exemple, que chaque Maya porte en secret un deuxième nom, un nom d'animal ?
Oui, c'est vrai. Le système du double animal existe encore partout et ça, ce sont des notions dont on parle surtout dans le débat parce que les gens se rendent compte de l'importance, justement, de cet impact, de tout l'esprit, enfin, tout ce qui est derrière ce qui est visible pour nous. Et je crois que dans le système de présentation que nous avons tenté de créer, c'est-à-dire à la fois le film, à la fois le débat, je crois que c'est un des seuls moyens qui permettent... Nous parlions tout à l'heure en disant que la radio était une chose extraordinaire. Mais la seule chose qui me gêne aujourd'hui devant ce micro, c'est qu'on ne puisse pas me poser la question suivante. C'est vrai. Et la télévision, c'est la même chose. On a pris l'habitude de boire, de manger une nourriture particulière et on en oublie un peu le contact. Et c'est ce qu'on aimerait faire avec notre nouvel organisme.
Merci Maurice Efti. Et ceux qui voudraient en savoir plus, eh bien, peuvent aller voir votre film que vous présenterez demain 7 janvier à Payerne, puis à Genève les 14, 15, 16 et 17 et enfin à Lausanne les 20, 21, 23 et 24.